Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est pile 18h, Simon nous rejoignait à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Attention aux orages, le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance rouge. Les deux départements sont menacés par des orages stationnaires. 25 départements du centre-est et du nord-est ont été placés, quant à eux, en vigilance orange par Météo France. Ils sont en alerte pour des risques d'orages violents. Une amélioration rapide de la situation est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. À la veille de la présentation au Conseil des ministres de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la Première ministre Elisabeth Borne ainsi que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont inauguré un commissariat dans le 3e arrondissement de Paris. Ils ont échangé avec ceux qui bénéficieront de cette loi. La Première ministre a par ailleurs annoncé des moyens supplémentaires. On l'écoute.
On poursuit cet effort et même on accélère, hein, puisque ce sont 15 milliards d'euros supplémentaires dont le ministère de l'Intérieur va bénéficier dans les 5 prochaines années. Et je vous annonce qu'on va recruter 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, dont 3000 dès l'année prochaine, là encore pour mieux assurer la sécurité des Français, mieux lutter contre la délinquance et puis mettre en œuvre les priorités du président de la République avec le doublement de la présence des forces de l'ordre dans l'espace public.
Voilà pour la Première ministre. Avion, train ou char à voile, le PSG est sous le feu des critiques, je vous le disais, après les propos de son entraîneur Christophe Galtier, interrogé lors d'une conférence de presse. L'entraîneur a proposé avec un grand sourire que son équipe fasse ses prochains déplacements en char à voile. Kylian Mbappé à ses côtés a été pris d'un fou rire. Ses propos ont suscité un tollé. Écoutez la réaction d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.
La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Le PSG n'est pas au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus de ses considérations. Et
moi, je... Non mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être qu'on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou pas. Dites-le-nous.
C'était un peu, je dirais, humiliant par rapport à la question posée par le journaliste.
Voilà, pour Agnès Pannier-Runacher, qui était mon invitée ce matin sur CNews. Un mot, bien sûr, du PSG qui va affronter ce soir la Juventus pour la première journée de la Ligue des Champions. Le match est à suivre sur Canal+. L'Agence internationale de l'énergie atomique a rendu aujourd'hui son rapport sur la situation de la centrale ukrainienne nucléaire de Zaporijjia, occupée par les forces russes. L'agence réclame la mise en place d'une zone de sécurité pour prévenir un accident nucléaire. La situation actuelle est intenable et crée l'instance onusienne dans ce texte de 52 pages. Enfin, Liz Truss devient officiellement la première ministre britannique. Elle a été reçue ce matin par la reine Elisabeth II qui lui a confié la tâche de former un gouvernement. La passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss s'est tenue à Balmoral et non au palais de Buckingham à Londres, comme c'est la tradition, en raison des problèmes de santé et de mobilité de la reine âgée de 96 ans. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On va en débattre ce soir avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir,
merci
Laurence.
D'être avec nous.
Merci.
Éric Revel, journaliste. Bonsoir.
Bonsoir,
merci d'être là, directeur du magazine Hémicycle. Et le grand retour de maître Gilles William Golnadel. Bonsoir maître.
Madame Gérard.
Avocat de son État. On va évidemment parler de tous ces sujets qui nous préoccupent, mais peut-être d'abord l'énergie, parce qu'on parle beaucoup de sobriété énergétique. On a eu le discours du président hier qui nous demande attention, faites attention, si vous ne faites pas d'efforts, vous aurez des coupures et des rationnements. Et puis ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était en déplacement et il a répété que nous sommes en guerre, mais en guerre énergétique. Écoutez-le.
La situation en termes énergétiques est...
d'énergie, on manque d'électricité, le gaz nous est coupé par le pouvoir russe. Donc il faut se mobiliser, puisque nous sommes en guerre, pour faire face à cette nouvelle donne énergétique. La première réponse, je ne cesserai de le répéter, c'est faire attention à notre consommation. La deuxième réponse, c'est augmenter la production. Il est essentiel que les 12 réacteurs d'EDF qui ont été mis à l'arrêt pour des raisons de corrosion sous contrainte soient remis en état de marche le plus rapidement possible. Enfin, le troisième volet, mais il est de plus long terme, c'est de diversifier notre approvisionnement énergétique, de réinvestir dans les énergies renouvelables et dans l'énergie nucléaire avec la réalisation de 6 nouveaux réacteurs.
Voilà pour Bruno Le Maire. Louis de Raguenel, pourquoi utiliser ce vocabulaire guerrier ? Nous sommes en guerre, on l'avait déjà eu pour le Covid. On l'a maintenant pour la guerre contre la crise énergétique. Est-ce que c'est bien nécessaire ?
Alors c'est un peu bizarre parce que le gouvernement s'est défendu, Emmanuel Macron s'est défendu à multiples reprises de mener la guerre contre la Russie. Effectivement, militairement parlant, on ne mène absolument pas la guerre à la Russie. Diplomatiquement, c'est pareil. Ensuite, on voit que le gouvernement est en train d'épouser la dialectique qui avait été utilisée pendant le Covid. Donc on est en guerre. Attention, si vous faites pas attention, il y aura entre guillemets des sanctions, ça va être les rationnements, il y aura un point hebdomadaire, donc toutes les semaines à partir de ça, la date n'a pas été annoncée, il y aura des points hebdomadaires, donc ils seront précisés pour expliquer si on consomme bien ou si on consomme mal d'un point de vue énergétique.
Si on fait des efforts ou pas quoi.
Exactement. Mais et simplement une chose par rapport à ce qu'a dit Bruno Le Maire, il dit on est en guerre parce que Vladimir Poutine a décidé de bloquer
le gaz.
Voilà, mais en fait, faut juste se souvenir d'une chose, on n'est pas des victimes. On n'est pas victime de Vladimir Poutine. Ce qui se passe, ce sont les conséquences de décisions politiques que le gouvernement a prises. Qui a décidé de mettre en place les sanctions contre la Russie. Je suis pas là en train de dire que c'était une bonne ou une mauvaise chose. Simplement, il faut assumer. On décide de sanctionner économiquement la Russie. Les conséquences, on pouvait les anticiper, on pouvait les prévoir, notamment sur cette partie-là. Mais on n'est pas victime.
Éric Revel, un petit mot sur ce vocabulaire guerrier.
Oui, moi j'ai envie de dire à Bruno Le Maire, nous sommes en guerre énergétique, mais combien de divisions? Parce qu'en réalité, on manque de divisions puisque la plupart de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, pour des raisons ou pour d'autres. Ça s'ajoute au problème de la guerre en Ukraine, dont les Français sont victimes, mais absolument pas les acteurs. Donc, on a l'impression qu'on est entraîné, si je reprends le langage guerrier de Bruno Le Maire, dans une guerre malgré nous, que ce sont les Français et les entreprises qui vont payer la facture, mais qu'à l'origine...
Dès maintenant, il y a des entreprises qui s'arrêtent.
Absolument, mais qu'à l'origine, il y a un facteur exogène qui s'appelle guerre en Ukraine, pour laquelle les Français, ils s'y sont pour rien, et puis le facteur intérieur, c'est quand même, oui, des choix politiques nucléaires. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'hier, le président de la République, lors de sa conférence de presse, la véhémence avec laquelle il a essayé de justifier cette cacophonie au début de son quinquennat,
sur puis
à la
nucléaire.
Fin de son quinquennat, voilà. Sur le nucléaire, montrait presque un accès de faiblesse. Et puis la façon dont il a chargé le président sortant d'EDF. Écoutez les syndicats, CGT, EDF, notamment sur ce qu'a dit le président de la République. Vous verrez que les syndicats CGT, EDF pointent du doigt un certain nombre de contre-vérités dites par le président de la République.
Maître Golnadel, les Français, ils disent, mais attendez, ce sont nos gouvernants qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Nous, on paye les factures, mais ce sont leurs décisions, et pas seulement depuis 5 ans, depuis 10, 20 ans, qui nous amènent là. Vous comprenez cette colère?
Oui, je l'ai même anticipé à l'époque. Mais d'abord, sur le ton martial... Oui. À force de jouer les Clémenceau pour monsieur Macron et le maréchal Joffre pour son ministre de l'économie, ça va finir par lasser. Hein. Le mot guerre va finir grandement par se dévaluer. On a fait la guerre contre le Covid, vous l'avez rappelé, on fait maintenant la guerre. Bon, donc je crains malheureusement que les munitions soient limitées, le stock est limité. Hein, premièrement, deuxièmement, l'Ukraine a quand même bon dos. L'Ukraine a bon dos parce que c'est la décision d'abord de M. Hollande pour faire plaisir à Dame Duflo, qui a donné la première charge contre l'industrie nucléaire française, le nucléaire qui est le fleuron. C'était le fleuron de l'industrie française. Il n'y en a pas tellement. Il y avait ça, c'était trop. Il a fallu donc là s'aborder. Et puis le coup de grâce a été donné par le président Macron et avec beaucoup de plaisir, de manière jubilatoire, par Madame Borne, qui a expliqué qu'elle, pour des raisons qui m'échappent sur le plan technique, mais enfin, on avait fini avec Fessenheim, et Fessenheim était le premier stade de la liquidation progressive de la méchante industrie nucléaire. Vous ayant dit cela quand même, pour être juste, il n'y a eu aucune opposition médiatique, pardon, des petites, toutes petites voix comme la mienne, dans le désert, mais vraiment, mais il n'y a aucun UFO, et même l'opposition de droite, qui aujourd'hui, je ne l'ai pas beaucoup entendu à l'époque.
Il y en avait, mais tout le monde s'en fichait complètement.
Très sincèrement, on était, et nous sommes toujours, important, pour d'autres raisons dont on va parler tout à l'heure, sous le joug médiatique et intellectuel des pseudo-écologistes, avec pas question, à l'époque c'était on était encore sur Fujiu Yema, donc il n'était pas question de parler du nucléaire, et là on va parler tout à l'heure de l'avion, et silence pratiquement dans les rangs. C'est pareil, donc maintenant c'est facile de se réveiller quand c'est trop tard.
Alors, un tout dernier mot, parce qu'on fait la pause.
Ce qui manque pas de sel, quand même, c'est que cette idéologie triomphante qui a labouré le terrain intellectuel pendant des années en France est partie d'Allemagne avec les Grünen, hein, qui eux, ont imposé à l'Allemagne d'arrêter son nucléaire. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du chancelier allemand qui a dit « On met en réserve deux centrales nucléaires en Allemagne au cas où on pourrait en avoir besoin. Ouais. » Je trouve ça extraordinaire. Peut-être que les écologistes vont se convertir à une nouvelle religion du nucléaire.
Ils sont un peu discrets, là.
J'attire l'attention des journalistes en général. Pendant que les écologistes, pardonnez-moi, parlent de barbecue et de virilité ou pas du barbecue.
Et de jet.
Et on évite de leur poser des questions à ces écologistes sur ce qu'ils feraient aujourd'hui.
Ils rasent les murs.
Ils rasent les murs de relancer ou pas la filière nucléaire, parce que quand même, cette idéologie, oui, elle a infusé pendant des années. Et vous avez raison, maître, il faut quand même le noter. Les modes sont très difficiles à contrer et la droite
il y a quand même des responsabilités politiques. Il y a quand même,
vous savez,
moi
y a
je veux bien sur l'influence.
Il y a un parti qui n'a pas varié sur le nucléaire, c'est le Parti communiste français. Le Parti communiste français, pourtant parti de gauche,
LR,
non, mais il faut le dire, non, les LR ont été plus mouvants, ça dépendait de quel leader on parlait. Mais le PCF et la CGT, PC, je lui reconnais d'avoir été absolument, invariablement, défenseur du nucléaire, plus gaulliste que certains gens de droite.
Vous parlez des influences politiques, c'est vrai qu'il y en avait énormément. Emmanuel Macron, en 2017, avait besoin de séduire une partie des écolos, de la gauche. C'est la raison pour laquelle c'était dans son programme, le démantèlement d'une partie du parc nucléaire, c'est Nicolas Hulot absolument. Et il y a l'influence et ensuite il y a la politique, il y a la défense des intérêts stratégiques du pays. Et là-dessus, c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne supporte pas la contradiction. Et donc effectivement, on le met face à ses propres déclarations. Et ce qui est quand même dingue, et ça je crois que personne ne l'a su, c'est qu'il y a quelques mois, il y a des émissaires du gouvernement qui sont allés voir EDF pour dire, est-ce que finalement, discrètement, est-ce que c'est pas possible de rouvrir Fessenheim? Parce que justement, il y avait ce qui s'est passé. Et EDF a dit, bah non, mais c'est trop tard. Là, on ne peut plus. Donc c'est pour ça que quand même Emmanuel Macron hier, et je termine par là, dit Fessenheim, c'était une évidence, il fallait la fermer, peut-être. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que discrètement, il y a quand même finalement, c'était pas possible.
Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de la polémique autour du PSG et du train. Pourquoi les joueurs ne prennent pas le train, finalement, au lieu des jets privés? Ça va beaucoup vous amuser. Allez, à tout de suite dans Punchline.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.